Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican, présenté par Bernard de Cotigny.
L'Irak, encore et toujours, peu importe la nouvelle constitution, peu importe le procès de Saddam Hussein, le pays est toujours en guerre, son coût humain, politique et économique est de plus en plus élevé. Être africain et écrivain, un double défi face au regard de l'occidental et de la terre natale, comment s'en affranchir ? La Chine ou le culte de la croissance, après 25 ans d'un développement fulgurant, le pays affronte aujourd'hui la grogne sociale, en cause des inégalités de richesse toujours plus criantes. Les coûts humains, politiques et économiques de la guerre en Irak sont de plus en plus lourds. C'est le bilan navrant que dresse dans une récente étude l'Institut international de recherche pour la paix, basé à Genève. La guerre, considérée par les auteurs comme illégale parce que menée sans l'aval des Nations Unies, a en effet coûté 200 milliards de dollars. L'Irak a sombré dans le chaos avec la tribalisation du conflit et il ne sera pas possible d'en sortir avant longtemps sans de grands efforts internationaux. Interrogé par Angelica Roger, le directeur du JPRI, Gabriel Galis, nous illustre les grandes lignes de cette étude.
Écoutez, les conséquences en termes de pertes humaines, si on se fie à des indications approximatives, parce que on n'a pas de chiffres certifiés, on a d'abord les militaires. Bon, ce qui est le mieux connu, ce sont les militaires de la coalition. On est à environ 2000 militaires américains, il faudrait ajouter les autres, mais ne sont pas comptés dans les pertes militaires, les pertes des sociétés privées, qui sont des mercenaires, ni les paramilitaires qui sont actuellement formés en Irak. Du côté des civils, les chiffres sont beaucoup plus importants, mais ne sont pas connus. Nous n'avons que des évaluations. Il y a une évaluation minimum de 27 000 civils depuis le début de la guerre, qui auraient été tués. Il faut confronter ça au modèle démographique qui a été publié par The Lancet, qui lui dit que c'est beaucoup plus important, c'est presque 4 fois plus, on serait autour de 100 000. Nous n'avons pas de compte sur les militaires irakiens qui ont été tués pendant la guerre par des bombes à fragmentation, par des bombes à effet de souffle, c'est-à-dire qu'on a expérimenté là-bas de nouvelles armes. En réalité, c'est énorme parce que vous avez, et c'est ce que prend en compte l'étude du Lancet, vous avez les morts directes et les morts indirectes. Quand vous détruisez l'électricité d'un hôpital, vous pouvez plus soigner des gens qui ont des dialyses ou les couveuses dans lesquelles il y a des bébés prématurés. Donc c'est ce qu'on peut dire comme perte globale. Vous comptez des gens qui sont blessés, vous en avez à peu près 4 fois plus que les morts, mais dans ces blessés, vous avez des blessés relativement légers qui vont s'en remettre, vous avez des gens qui sont aveugles ou mutilés à vie, auxquels il manque un bras, deux bras, quelques jambes. C'est effectivement ce qu'on voit, les journalistes y sont allés, dans des hôpitaux aux États-Unis où on peut voir les dégâts réels. Donc voilà en gros le bilan purement de pertes humaines, tout confondu, civils et militaires, irakiens et états-uniens.
Mais c'est pas tout. Non. Il y a encore les résultats économiques.
Absolument. Absolument. Il y a les résultats économiques et il y a les résultats politiques et diplomatiques. Les résultats économiques, les dernières évaluations que j'ai consultées ce matin, c'est 196 milliards de dollars pour le coût de cette guerre. C'est quand même conséquent. Là-dedans, il faut bien comprendre qu'il y a ceux qui payent et il y a ceux qu'elle ça rapporte. Ceux qui payent, c'est le contribuable américain. C'est la communauté internationale, puisque les Américains vivent à crédit. Donc finalement, nous sommes tous financeurs de la guerre par le fait que les États-Unis sont en déficit et que le dollar est la monnaie officielle. Donc, ils peuvent se permettre d'avoir des créances sur l'humanité entière. Mais en réalité, vous avez des bénéficiaires de ça. Les grandes sociétés américaines qui sont d'ailleurs deux fois bénéficiaires. Une fois parce qu'elles investissent dans la destruction des équipements et de l'adversaire. Et une deuxième fois parce que les mêmes sociétés qui ont plusieurs départements participent à la reconstruction de ce qu'elles ont détruit. C'est quand même assez génial.
L'économie. C'est vicieux.
Ah, c'est vicieux, c'est le business, ça s'appelle l'efficacité. Donc, moi j'ai cité Joseph Schumpeter, qui était un économiste d'origine autrichienne, après réfugié aux États-Unis, qui avait parlé de la notion de destruction créatrice. Et je crois que c'est une notion qui actuellement explique bien le fonctionnement économique de notre système. C'est à la fois détruire et recréer, et puiser des ressources pour faire des bénéfices. Donc voilà, ce système fonctionne. On peut en penser du bien ou du mal selon de quel bord on est, mais il y a des gens qui en profitent.
Qu'en est-il des conséquences politiques et diplomatiques ?
Écoutez, je crois que c'est ça qui est presque le pire. Je crois que c'est encore pire que le coût humain et que le coût humain direct et que le coût financier, parce que ça n'est pas mesurable, mais ça va durer plus longtemps. Moi, je vois trois perdants dans cette affaire en termes de coût politique. D'une part, les Irakiens eux-mêmes. Pas seulement les Irakiens comme personnes physiques, mais l'Irak comme étant le berceau de la civilisation. Il faut savoir que l'écriture a été inventée à Sumer et en Mésopotamie, avant que les États-Unis n'existent. Et la citation de Jacques Berk, qui est dans ce livre, dit « C'est pas par hasard si on a détruit le berceau de la civilisation. C'est un pôle de résistance. C'est une mémoire de l'humanité. Vous savez que les musées ont été pillés. On a fait du business avec le pillage des pièces qui ne sont pas remplaçables, parce qu'on peut remplacer un certain nombre de choses, un char et même un immeuble, mais on ne peut pas remplacer une pièce d'archéologie. Donc on a détruit la mémoire, on a détruit l'État irakien. Le peuple aussi, on le détruit, puisque finalement, dans ce pays, cohabitaient tant bien que mal et avec des massacres sur le dos des Kurdes. Mais finalement, chiites et sunnites ne se massacraient pas. Maintenant, ils se massacrent un peu par leur groupe paramilitaire. Donc, on détruit l'État, on détruit la mémoire de l'Irak, on détruit l'État irakien et on s'en prend au peuple. Donc, les premiers perdants, ce sont évidemment les Irakiens. Le deuxième perdant, c'est la communauté internationale. Ce qu'il faut appeler en toute rigueur la communauté internationale des États, parce qu'il ne faut pas se confondre l'opinion et la communauté internationale, parce que finalement la charte de l'ONU qui avait banni la guerre, il n'y avait plus que la possibilité momentanément du droit, article 51, à l'autodéfense, quand on est attaqué, en attendant une résolution de l'ONU. Maintenant, les dirigeants américains ont inventé la notion de guerre préemptive, ce qui consiste à dire « je suppose que vous allez m'attaquer, donc je vous tape dessus avant que vous m'attaquiez ». Mais ça s'appelle une attaque, ça s'appelle pas une défense, puisque la supposition est fondée sur rien. Et là, on a bien vu que les arguments invoqués, les armes de destruction massive et autres prétextes terroristes d'Al-Qaïda, qui sont d'ailleurs maintenant là-bas alors qu'ils n'y étaient pas avant le début de la guerre. Parce que Saddam avait tous les défauts, mais il n'était certainement pas un foyer du terrorisme d'Al-Qaïda. Donc maintenant, ils y sont, donc on a ajouté à ça. Donc la communauté internationale et le droit international est bafoué, et dans les cercles de l'ONU, maintenant, on est en train d'entériner juridiquement, de faire passer dans le corpus juridique la notion politique de guerre préemptive. C'est pas encore fait, il y a de la résistance, j'espère que ça va aller jusqu'au bout, mais c'est grave que ce soit simplement en discussion. Et le troisième perdant qui paye un coût politique élevé, c'est à mon avis les États-Unis d'Amérique eux-mêmes. C'est assez incroyable de voir qu'au lendemain du 11 septembre, tout le monde disait « nous sommes tous américains », et que 4 ans après, à peu près toute la communauté internationale et l'opinion publique mondiale dit « c'est pas possible ». Alors évidemment, quand on dit ça, il ne faut pas confondre le citoyen américain qui lui est victime, pas informé, qui paye, et puis ceux qui en profitent. Une petite équipe qui est liée à l'État, qui fait des bénéfices avec la société Halliburton et d'autres. Et ces gens-là ne sont représentatifs que d'eux. Mais je crois que le peuple américain dans son ensemble et l'image des États-Unis s'en trouve, hélas, pour de nombreuses années, blessée. Et c'est probablement pas en étant de plus en plus militarisés, de plus en plus agressifs, qu'ils vont remonter leur image. Les gens, ils étaient avant admirateurs des États-Unis pour le Coca-Cola et le jeans. Bon, c'était la liberté. Maintenant, c'est plus la liberté. Alors d'autres vont en profiter. D'autres puissances vont en profiter. Le Canada, par exemple, qui a une attitude beaucoup plus humaniste et humanitaire et low profile, qui devient le rêve, l'Eldorado d'un certain nombre de gens. Vous en avez d'autres qui vont en profiter politiquement et économiquement. C'est la Chine, qui est en train d'utiliser un peu les maladresses des États-Unis. Et je crois que les États-Unis ils vont devoir corriger le tir assez rapidement pour sortir de ce guépier dans lequel ils se sont mis.
Conclusion. Alors, les Américains en Irak sont-ils gagnants ou perdants ?
Moi, je veux distinguer entre le peuple américain et une petite clique politico-économique qui en profite. Ce qu'aux États-Unis même, on appelle le crony capitalism, le capitalisme de compère. C'est pas le capitalisme de marché, qui lui a des règles théoriquement un peu avérées, mais c'est une bande de copains qui se partagent du fromage. Donc ceux-là, ils gagnent. Cheney, Pearl, Bush, père et fils, Condoleezza Rice, qui a des intérêts dans le business. Je veux dire, les cartes de visite de ces gens-là, elles sont totalement disponibles sur Internet. Donc, cette petite clique-là et leurs ayants droit, famille protégée, ils y gagnent quelque chose. Globalement, le peuple américain, il y perd deux fois. Il y perd d'abord en perdant ses hommes. Alors parfois ils sont pas américains, ils sont candidats à la naturalisation. On leur dit si vous revenez vivant, vous êtes naturalisé. Et sinon peut-être on fera un effort pour votre famille. Bon, voilà un peu le genre de marché. Mais de toute façon, ils payent comme contribuables à travers les dépenses faites. Donc les Américains globalement sont perdants comme peuple et comme pays, comme personne morale au sens abstrait du mot, au sens juridique du mot, ils sont largement perdants. Je crois que c'est ça la première constatation. Les opposants à la guerre aux États-Unis, même, qui sont, il faut le dire, courageux, qui sont documentés, le mérite de ces intellectuels et journalistes qui sont engagés, qui sont absolument critiques vis-à-vis de leur gouvernement, qui parfois se font taper sur les doigts, ils ont du mérite, c'est eux les premiers résistants, en quelque sorte, à l'intérieur. Donc, globalement, à mon avis, les États-Unis sont perdants.
Les littératures africaines sont en plein essor, riches et diverses. Richesse et diversité qui pourtant n'arrivent pas toujours à changer le regard de l'Occident sur elles, souvent tiers-mondiste ou idéologique. L'écrivain africain subit aussi une autre pression, celle de sa terre natale. Il lui est alors difficile parfois de s'affranchir de l'afrocentrisme ou de l'auto-apitoiement. Boniface Mongo Mboussa, responsable littéraire à Africulture, s'en explique.
Je crois qu'il y a une culpabilité. On fait partie de l'élite, entre guillemets. On habite souvent à l'étranger, mais aussi pour des raisons stratégiques. Dans mon cas, c'est Paris. Et je le dis toujours que Paris est la capitale culturelle et littéraire de l'Afrique. Même si ça fait mal, c'est ainsi. Il y a ce sentiment de culpabilité parce que, quelque part, on est des élites, parce que, quelque part, le continent va mal. On n'a pas le temps de prendre la distance, comme je venais de le dire, par rapport à ces phénomènes-là. Alors, bien entendu, tout le monde ne fait pas de la littérature engagée, parce que, bon, c'est une problématique un peu désuète, un peu problématique en soi. Alors, ce qui s'est passé, il faut le dire, les choses, c'est que l'écrivain en Afrique est à la fois écrivain, intellectuel, journaliste, parfois sociologue. Parce que, comme les médias, et ça c'est très important, sont l'apanage des pouvoirs, qui sont souvent des pouvoirs autoritaires, la seule parole libre, le seul espace de liberté reste l'espace littéraire. Pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'on publie, on publie ailleurs, donc les pouvoirs sur place n'ont pas la maîtrise sur nous. Deuxièmement, parce que comme je vous dis, la presse libre est assez rare, les intellectuels, les universitaires sont souvent fonctionnels, travaillent souvent pour les appareils d'État, et donc la seule personne habilitée à tenir un discours, on peut dire plus ou moins de rupture, c'est l'écrivain, donc on n'a pas le choix. Bien souvent, on n'a pas le choix, parce que c'est l'histoire qui le dicte.
Et cela, que l'on soit, je dirais, romancier, essayiste ou même écrivain de théâtre.
Mais bien sûr, parce que je pense que quelque part, bon, vous connaissez cette histoire, la culpabilité des survivants. La plupart des personnes qui survivent se posent toujours des questions. Et si, pourquoi je suis en vie, pourquoi la mort a pris mon frère ou ma sœur. Je crois que je veux pas aller jusqu'à cette comparaison, mais en tout cas, on peut avoir une esquisse, une approche, parce que nous, quelque part. Malgré nos misères, malgré nos souffrances aussi, on fait face à d'autres problèmes dans les sociétés occidentales. Il y a ce sentiment de culpabilité aussi, quelque part. On est plus ou moins nantis, ne serait-ce que parce qu'on est publié, on est édité, on est parfois invité dans des conférences internationales, alors qu'on sait que nos frères, ceux qui sont sur place, ont parfois du mal à faire face au quotidien. Je ne veux pas avoir un discours misérabiliste, mais toujours est-il que le fait est que la réalité est parfois intenable. Et parce que aussi notre lectorat nous le demande aussi, parce que c'est une question obsessionnelle quand on rencontre le lecteur africain. Donc on attend de nous aussi un certain rôle. C'est vrai qu'on est piégé. On est piégé aussi, parce que le propre de la littérature, ce n'est pas d'être engagé, c'est peut-être de faire aimer le beau et de faire parfois de l'art pour l'art. Mais bien souvent, on n'a pas le choix parce que justement, comment dire, la division du travail n'a pas encore eu lieu. Je pense que le jour où chacun sera à sa place, le jour où il y aura une presse libre, le jour où il y aura des intellectuels, pas simplement organiques, libres, je crois que ça pourrait libérer l'écrivain. Et à partir de ce moment-là aussi, on verra qui est écrivain, qui ne l'est pas. Parce que bon, bien souvent, c'est très facile aussi d'être, de se dire... défenseur des opprimés ou porte-parole des humiliés.
Alors, ce sentiment d'obligation, d'engagement, je dirais, on peut le ressentir, bien sûr, comme écrivain africain par rapport à ses frères et sœurs, vous venez de l'exprimer. Mais est-ce que vous le ressentez aussi comme une obligation par rapport à l'Occident qui attend cela de vous plutôt qu'autre chose ?
Oui, je crois qu'il y a ce piège-là. Je pense que le grand problème, comme je vous l'ai dit, cette littérature est née en Occident, elle est publiée en Occident, il y a un vrai piège. Il y a un problème de lectorat. On est partagé entre ce que j'appellerais le lectorat de cœur, qui est notre lectorat originel, pour lequel on écrit, qui bien souvent ne le lit pas, pour des raisons parfois économiques. Il faut le dire, le livre coûte cher, parce qu'il n'y a pas de structure littéraire, il n'y a pas de relais, il n'y a pas la critique nécessaire pour faire connaître le livre. Et notre lectorat de raison, qui est le lectorat occidental, qui nous lit, qui a des institutions bien installées, littéraires, je veux dire, les maisons d'édition, la presse, etc., et qui parfois insidieusement, oui, exige de nous une certaine littérature, parfois de l'exotisme ou de l'engagement. Je crois qu'il y a un vrai piège, on a conscience de cela. Bon, je m'en tiens pour vous dire qu'on ne tient pas compte de ça, parfois on est déchiré, on n'écrit pas pour cela, il y a une pulsion intérieure. Mais il n'empêche que le livre est aussi un produit commercial. Il est à la fois produit commercial et produit culturel. Je crois que l'écrivain africain ou l'écrivain africain est déchiré, est partagé parce que c'est une situation parfois intenable, schizophrène. On est des schizophrènes, oui, on est des êtres partagés. Mais tout ça revient à une question fondamentale qui est la question de l'extraversion. Si vous voyez bien, le continent africain, et je crois que l'un des drames de l'Afrique qui vient de là, c'est un continent extraverti, qui produit de la matière première, sur le plan économique, mais qui ne la transforme pas, mais qui, en retour, achète le produit fini, parfois à des prix peut-être exorbitants. Et je crois que on peut aussi dire que sur le plan d'idées, on est à ce niveau-là, d'une certaine manière, regardez la fuite des cerveaux, même si, d'une manière ou autre, il y a un retour vers le pays originel, parce qu'un livre publié n'est jamais perdu, parce que quelqu'un qui travaille en Occident a la possibilité d'envoyer de l'argent aux siens ou de participer de manière indirecte à la vie économique du pays, a la possibilité aussi d'apporter une sorte de valeur sociale parce qu'il s'est confronté au monde occidental, parce qu'il a acquis un certain savoir-faire, une certaine exigence. Il n'empêche que la situation originelle est qu'on est un continent extraverti, qu'on le veuille ou pas, que ça nous fasse du bien ou du tort, mais le fait est là, il faut être lucide.
Pour revenir à l'œuvre littéraire, est-ce qu'il n'est pas possible de trouver une voie média, je dirais, entre finalement littérature pure et oui, littérature engagée à laquelle vous semblez finalement appelé irrémédiablement par une question éthique en quelque sorte.
Oui, le seul bien que l'on puisse faire à un écrivain africain, c'est qu'on lui foute la paix avec l'Afrique. Un écrivain africain n'est pas payé par le ministère du tourisme, donc il n'a pas là vocation à célébrer son pays ou bien à mettre en scène les horreurs. Je crois qu'il y a, cette tendance-là, oui, les deux courants cohabitent. Il y a des gens qui refusent de manière vigoureuse à faire de la littérature engagée. Je pense qu'on est là un défi, on pose un grand défi à l'écrivain. Comment être engagé sans sacrifier l'esthétique? Et ça, c'est un grand pari. Bon, il y a des grands latino-américains qui l'ont fait avec bonheur, quoi. Quand vous prenez un livre comme L'automne du patriarche de Gabriel Garcia Marquez, c'est un bijou littéraire, mais en même temps, c'est un livre très, très engagé. Ou bien, bon, récemment, Mario Vargas Llosa l'a fait avec La fièvre au bouc, ce livre consacré au dictateur Trujillo. Donc, on a des aînés qui nous ont montré le chemin.
Et si tout cela vous a donné des envies de lecture, Boniface Mongomboussa a publié un manifeste sur la littérature africaine en 2 volumes, Désir d'Afrique et l'indocilité. Réduire les inégalités sociales dans une société en pleine expansion économique, prendre en compte aussi l'environnement, c'est le défi que viennent de se fixer les dirigeants chinois qui craignent que le vent de mécontentement de certains pans de la population ne dégénère. En 2004, en effet, près de 75 000 manifestations ont été recensées dans le pays. Conscient du problème, le régime vient de décider d'ajuster son modèle de développement afin de réduire les inégalités sociales entre paysans et urbains, entre régions côtières et de l'intérieur. Le pays est-il sur le seuil d'une véritable crise sociale? L'analyse du sociologue chinois Zhang Lun, interrogé par Hélène Destombes.
Vous savez, en 20 ans, 25 ans, la Chine passait d'un pays égalitariste absolu, hein, la période maoïste, tout le monde peut avoir une image plus ou moins de cette période de la Chine, hein, à maintenant la Chine passée en 20 ans ou 25 ans, un quart de siècle, passer à un pays qui a le plus d'inégalités sociales, presque au premier rang du monde. Cela entraîne des tensions sociales de plus en plus pesantes, hein, et qui menacent justement l'avenir de la Chine. Donc, les autorités, le parti, plus ou moins, a pris la conscience. Il y a cette réorientation de la ligne de réforme en Chine, qui mettent la paix sociale, justice sociale, l'égalité sociale, tout ça, en une priorité relativement importante.
Un virage, c'est-à-dire que de réformes économiques, il est en train de passer maintenant aux réformes politiques?
Ça, je ne suis pas sûr, hein. Pour l'instant, je ne vois pas le signe. Mais si on voulait changer cette orientation de réforme, je crois une réforme politique plus ou moins doit être accompagnée de ce changement. Vous savez que la stabilité politique sociale maintenue jusqu'à maintenant, c'est plutôt d'une façon traditionnelle, c'est-à-dire autoritaire, hein, policière, tout ça. Cette façon, je crois maintenant, se heurte à certaines difficultés de plus en plus grandes, hein. C'est le mécontentement de la part de populations défavorisées à croître chaque jour. Vous savez que maintenant, avec les années, la politique des autorités des années 90, il y a une différenciation même au sein de la communauté des intellectuels. Il y a une partie qui s'enrichit, qui sont devenus de plus ou moins des privilèges, hein, très proches du pouvoir. Il y a une autre partie qui se trouve toujours du côté des classes défavorisées. Cette partie des intellectuels, maintenant, ils s'engagent de plus en plus dans la défense des droits des défavorisés. Bon, c'est comme ça, on a assisté à l'émergence du mouvement civil depuis certains temps en Chine, qui consiste à défendre les droits des défavorisés en Chine. Bon, ben, je pense qu'on a intérêt à observer dans les années à venir ce mouvement, est-ce qu'il peut continuer à prendre une ampleur considérable, importante, qui contribue au changement politique de la Chine, où ce mouvement sera toujours réprimé par les autorités.
Alors ce mécontentement grandissant, on parle de plus de 70 000 manifestations recensées en 2004. Est-ce que l'on peut considérer que la Chine se trouve au bord d'une véritable crise sociale?
Cette crise sociale permanente, hein, mais arrive à telle ampleur, est-ce que ça peut exploser la Chine ou tout d'un coup hein, on arrive aux portes d'une révolution? Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas sûr, mais on sait que le mécontentement accroît, ce qui menace la stabilité de la Chine, ça c'est évident.
On vient de l'évoquer, hein, le défi majeur donc pour le président Hu Jintao, harmoniser croissance économique et développement social. On se demande d'ailleurs comment c'est possible sans réforme politique. Autre défi, s'attaquer aux problèmes de pollution liés donc à ce boom économique fulgurant.
Si vous voulez dire qu'il y a quelques changements au niveau culturel important en Chine, c'est la prise de conscience de l'environnement, de la protection de l'environnement chez la population. C'est un phénomène important. Voilà, les autorités commencent à envisager certaines mesures pour réduire la pollution, vous savez, d'avoir un développement durable. Hein. Et c'est quoi, tout ça, ça lie ensemble. Mais la situation de l'environnement, le problème de l'environnement en Chine, c'est assez préoccupant. Je crois que c'est aussi arrive à un niveau, il faut absolument réagir tout de suite. Sinon, un jour, on va assister à des catastrophes.
Fin de ce magazine. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. We'll be right back.